Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal de la nuit de la vieille Europe dirigé par Patrick PL. Émission préenregistrée le 26 juillet 2012 et diffusée mardi 21 et jeudi 23 août 2012 de 21h30 à 23h. Elle est réalisée par Franck. Exceptionnellement, vous ne pourrez pas intervenir au cours de cette émission, mais vos lettres seront toujours les bienvenues. Notez bien notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.
Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de la vieille Europe, toujours sur Radio Courtoisie. Alors, émission un peu particulière en ce mois d'août car nous l'avons enregistrée. Donc, malheureusement, vous ne pourrez pas nous envoyer de message en direct comme d'habitude. Alors, émission autour d'un thème beaucoup trop peu abordé à mon avis par nos médias, mais qui est d'une importance capitale, la ville. Aujourd'hui, l'immense majorité des habitants habitent la ville. Pour certains, un véritable déracinement, pour d'autres, une chance de reconstruire du lien social, un sujet souvent négligé, avec dans notre histoire des politiques publiques qui ont été de véritables catastrophes. L'exemple de nos banlieues en est un parfait exemple. Alors, pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir ce soir Pierre Le Vigan, bien connu des auditeurs de Radio Courtoisie. Vous êtes journaliste et essayiste et vous venez de sortir un essai aux éditions La Barque d'Or, écrire contre la modernité, livre que vous aviez présenté dans le libre journal des lycéens de Romain Le Cap. C'était au mois de juillet, je crois, c'est ça?
Tout à fait, quelques jours.
Voilà. Alors, quelques informations suite à notre émission du mois dernier, où j'avoue que je n'ai jamais eu autant de messages privés pour une émission, et souvent de la part directement des acteurs de la fameuse gauche populaire. Pour les auditeurs qui ne nous auraient pas entendus, on avait fait une émission sur ce fameux mouvement qui s'appelle la gauche populaire. Alors, soit très critique, considérant qu'on avait déformé et ridiculisé leur mouvement, mais en même temps, certains nous ont félicité, je cite, de notre lucidité stimulante. Donc cela prouve qu'on ne devait pas avoir tout faux sur notre analyse. Et puis cela tombe bien, parce que Pierre Le Vigan avait participé à cette émission. Avez-vous l'impression, rapidement, d'avoir déformé leur pensée, Pierre ?
Écoutez, Patrick, je crois franchement avoir été assez honnête sur les gens de la gauche populaire. Simplement, il était, à mon sens, nécessaire de rappeler quand même qu'ils s'inscrivent dans la filiation de ce qu'on appelle l'idéologie des Lumières, avec cette religion du progrès qui me paraît avoir finalement été quelque chose de totalement destructeur de bien des liens sociaux au nom de la religion du progrès. Et bien en fait, on est tombé dans le culte du nouveau. Hein, c'est pas ouais. chez les anciens, on parlait parfois du culte du bateau, le culte du cargo. Vous voyez, chez nos amis africains. Et bien là, en Occident, c'est le culte du nouveau.
Bon, en tout cas, nous leur souhaitons bonne chance dans leur entreprise. Idéologique de réforme de la gauche, mais surtout qu'ils arrêtent d'avoir l'impression d'être agressés par la moindre critique venant d'ailleurs, mais aussi d'avoir un peu d'humour et de recul sur ces sujets politiques. Alors passons maintenant à notre sujet de ce soir. Pierre Le Vigan, si les auditeurs de Radio Courtoisie vous connaissent, c'est surtout en tant que journaliste et essayiste, mais au départ vous êtes urbaniste de formation. Vous avez écrit un essai important sur la banlieue contre la ville aux éditions La Barque d'Or. Alors, dans votre avant-propos, vous reprenez une définition de la ville par l'architecte Christian Porsenparc, les classant en trois types. C'est quoi les trois types de villes ?
Ah oui, alors les fameux ville 1, ville 2, ville 3. Alors, la ville 1, c'est la ville qui s'est construite lentement, au rythme de civilisations qui ont longtemps été les nôtres, hein, c'est-à-dire des civilisations où la croissance de la population était faible. Vous connaissez d'ailleurs des décrues, avec la grande peste au Moyen-Âge, etc. Les invasions barbares avec des mutations civilisationnelles plus importantes d'ailleurs même que celles que nous connaissons actuellement, qui ne sont pourtant pas minces avec le grand remplacement, comme dit Renaud Camus. Enfin, des grands remplacements, il faut bien voir, il y en a eu beaucoup d'autres dans l'histoire. Alors, la ville 1, bon, c'est une ville qui se bâtit lentement et dans laquelle les habitants sont aussi finalement des constructeurs. Hein, si vous voulez, il n'y a pas tellement de dissociation entre j'habite quelque part, bah en même temps on auto-construit beaucoup sa maison. Hein. Voilà, donc c'est je construis moi-même le lieu où je vais vivre. Alors la ville 2, bah en gros c'est la ville haussmannienne, hein, c'est assez récent, donc c'est une ville impulsée par le pouvoir politique. En liaison bien sûr avec la classe bourgeoise dans ses fractions les plus aisées, hein. Bon, en fait les promoteurs immobiliers pour faire court quoi, en fait où on lotit des terrains, puis alors on fait des belles façades. En général derrière les belles façades ce sont des cours vraiment pas terribles, plutôt limite glauque, hein, si vous voulez, mais enfin il y a la volonté de belles façades, de grandes artères, c'est un peu la vitrine d'un régime, hein. C'est pas par hasard si sous Haussmann c'est sous Napoléon III, c'était un régime qui se voulait aussi un régime d'une certaine façon de réactivation de la gloire de Napoléon le premier, si je puis dire, et donc c'était un peu une noble vitrine. Puis alors tout ça se prolonge avec les grands ensembles qui est une reprise, hein, en quelque sorte d'un projet du projet autoritaire d'Haussmann, puisqu'on reprend finalement cette notion d'une politique vraiment publique forte, mais alors évidemment avec un aspect décoratif pour le moins abandonné, si je puis dire, parce que sous Haussmann au moins les façades étaient quand même assez réussies, même si les arrière-cours étaient pas terribles. On a envie de dire que dans les grands ensembles c'est moche de partout.
Ouais, bon, oui, c'est alors clair. On reviendra sur cette banlieue.
Et puis la ville 3, c'est celle qui essaye de s'inventer, dans laquelle on a clairement arrêté les grands ensembles, hein, ça c'est tout à fait clair. Alors on bricole, on essaye de retrouver parfois l'esprit des coursives du Moyen-Âge ou de la Renaissance, mais bon, on a un peu du mal, on manque un peu de recul pour porter un jugement définitif.
Alors vous expliquez très justement que nos villes au départ ne portent, les villes aujourd'hui ne portent plus les différentes traces de notre évolution, il n'y a plus le poids de notre histoire, c'était une accumulation de la civilisation, en gros la ville est devenue banlieue, c'est-à-dire que c'est le contraire qui s'est passé.
Oui, alors ça c'est le grand drame, hein, c'est-à-dire que maintenant l'immense majorité des gens ne vivent plus dans des villes traditionnelles, hein, même en tenant compte des mutations du 19e siècle, du 20e siècle et même maintenant du début du 21e, mais vivent tout simplement dans des banlieues, hein, alors dans des banlieues qui en plus ne sont plus les vieilles banlieues, c'est aussi ça la question, c'est-à-dire que ces banlieues n'ont aucun rapport avec Aubervilliers actuellement, n'a pas beaucoup de rapport avec Aubervilliers en 1890, hein. En 120 ans la ville a complètement muté, les vieux coins de banlieue comme Aubervilliers, Pantin, les Lilas, etc., Bagneux, ont été rasés, remplacés par des grands ensembles ou par des zones d'activité, alors qu'auparavant la banlieue ça a toujours été une zone où on mettait les industries les plus polluantes, c'est un peu logique, on va pas mettre les industries les plus polluantes à la sortie du palais du Louvre où se promenaient les rois et les empereurs. Bien entendu, on mettait les tanneries, les blanchisseries étaient à Boulogne-Billancourt, etc. Les industries polluantes, souvent, étaient à Saint-Denis, à Aubervilliers, etc. Mais enfin, il y avait une mixité habitat-industrie, qui était d'ailleurs quelques grosses industries, mais beaucoup de petits ateliers, hein, avec donc une vie, une certaine convivialité, non sans rudesse parfois, mais voilà. Alors maintenant, on a tout séparé. Grands ensembles, 100% habitat, voiture, RER, métro, marche à pied, et on arrive dans sa zone d'activité. Vous savez, dans les années 70, le fameux film, je renvoie les auditeurs de Radio Courtoisie, c'est quand même assez délicieux à revoir. Elle court, la banlieue.
Dans la banlieue, c'est... Hein, c'est Jacques Higelin, si je me souviens bien. Il y avait Jacques Higelin dedans, je crois bien. Ouais.
Alors, je ne sais plus trop, j'avoue.
Mémoire. Question un peu idiote, la ville a toujours existé, ou plutôt, dans nos civilisations, on a toujours pris en compte l'importance de la ville et de son organisation, ou c'est arrivé avec le temps?
Alors oui, la ville a toujours été quand même le lieu du pouvoir politique, hein. Alors en France c'est très net, hein, assez vite, à partir de la fin du Moyen-Âge, tout se joue à Paris, si je puis dire, politiquement, et qui ne tient pas Paris ne tient pas la France, quoi. C'est assez clair, hein. Regardez Napoléon Ier, campagne de France 1814, il s'éloigne de Paris pour manœuvrer. Entre-temps, Paris est assiégé. Si Paris avait tenu quelques jours, il serait accouru peut-être pour la délivrer. Eh bien non, Paris tombe. Paris tombe, et à partir de là, toutes les élites parisiennes, le Sénat de l'Empire, etc., se rallient à ceux qui préfèrent un compromis avec les Alliés et finalement le retour des Bourbons. Et c'est trop tard, il a tout perdu, alors qu'il a encore une armée. Enfin, vous voyez, c'est Paris est stratégique. Et en 40, quand le gouvernement quitte Paris pour Bordeaux, vraiment, c'est que les carottes sont cuites.
Alors, il y a eu un sacré changement dans l'histoire qui s'est opéré, je dirais, en Europe, mais aussi surtout en France, entre le modèle de la ville antique et le Moyen-Âge. Alors, le Moyen-Âge, c'est une ville qui se referme sur elle-même. Quels vont être vraiment les bouleversements? Et pourquoi cette ville va, par rapport aux villes comme Rome, Athènes, etc., ce sont des villes qui vont vraiment où on utilise le moindre espace vivable pour se retrancher.
Oui, alors c'est-à-dire qu'en fait la tendance de naturelle, c'est en quelque sorte de surutiliser l'espace. Enfin, c'est un peu une tendance logique. Soi-même dans un logement, parfois si on a plein de bouquins, on rajoute des étagères un peu partout. Bon, la ville, c'est un peu la même logique. Alors qu'est-ce qui tend à contrecarrer cette logique? C'est toujours le politique, si vous voulez, tendance de la société civile, si je puis dire. Utiliser l'espace au maximum, hein, voilà, on surélève le pavillon pour accueillir le troisième enfant qui n'était pas prévu au départ, et voilà, bon, on voit encore ça parfois dans certaines banlieues, hein, et confère d'ailleurs la dernière mesure qu'avait pris Sarkozy, qui a été supprimée, qui a augmenté de 30% les droits à construire. Bon, voilà. Alors, c'est une autre logique, hein, c'est aussi une façon de faire un cadeau aux promoteurs immobiliers. Mais enfin, c'est un peu la tendance, c'est un peu l'attente de la société civile. Laissez-moi construire, j'ai mon bout de terrain, voilà. Tendance du politique, c'est quand même élargir les voies pour des raisons de sécurité, de contrôle étatique, hein, parce que une ville inextricable, c'est difficile à contrôler. Ah, maintenant, bien sûr, avec tous les moyens de contrôle, c'est un petit peu différent.
Enfin, je vous coupe, oui. c'est assez important, c'est qu'on s'aperçoit dans votre livre que les maires de Paris, depuis maintenant pas mal d'années, se plaignent du conservatisme de ses habitants, mais cette transformation de Paris, ça a toujours été une difficulté, même sous Henri IV, etc. Il y a toujours une tendance, on ne veut pas agrandir la ville. Quoi.
Absolument, oui, tout à fait, ça a toujours été... C'est-à-dire que les interventions autoritaires ont toujours quand même lésé une partie de la population. Il y a donc toujours eu des résistances. Mais c'est vrai qu'il y a toujours, du point de vue des pouvoirs politiques, pouvoirs royaux pendant des siècles, hein, la volonté quand même, entre guillemets, d'embellir la ville, ce qui sous-entend quand même de l'aérer. Hein, ouais. De l'aérer, et puis en même temps, de donner des voies de contrôle à l'armée. Donc ça, il y a vraiment deux logiques différentes. Hein. Si on laisse les gens faire, ils rajoutent des couches de population à des couches de population sur le même territoire. Et effectivement, la logique du pouvoir, c'est de créer quand même des axes de contrôle, de dégagement, etc. Voilà un petit peu les choses. Et la question de la sécurité, d'ailleurs, est assez cruciale maintenant dans les banlieues, hein, parce qu'on sait très bien qu'il y a toute une série d'études par les services de sécurité... Qui vise à maintenant, quand on accorde un permis de construire, essayer de voir qu'est-ce qui peut se passer en termes d'accès des pompiers, en termes d'accès des forces de police. Voilà, donc c'est pris en compte. C'est pas étonnant du tout, au demeurant.
Alors, il y a aussi une période qui est c'est assez étrange. Vous expliquez que la Renaissance avait... tout le monde connaît le changement de la Renaissance, et bien sûr que la ville va changer. Et vous dites on prend en compte les proportions, les monuments, mais alors c'est une période où on construit peu. En fait, ça va être une période très théorique qui va nous amener jusqu'au 18e, quoi. Toute cette période-là, on va prendre en compte la théorie qui a été mise en place de la ville, de la Renaissance.
Oui, c'est assez curieux, parce que finalement, effectivement, il y a des périodes, on construit peu, mais on pense beaucoup. Il y a des périodes, on pense peu, mais on construit beaucoup. Alors évidemment, on peut penser que quand on construit beaucoup, on prend aussi en compte la maturation intellectuelle qui a pu se produire dans les périodes de réflexion. Mais il y a un peu une alternance, incontestablement. La ville, c'est un peu un accordéon. Hein, quand vous pensez que Rome est passée de plus d'un million d'habitants à l'époque de l'Empire romain à quelques dizaines de milliers à peine sous la Renaissance, pour redevenir une grande ville actuellement, y a vraiment des phénomènes d'accordéon tout tout à fait étonnant. Puis il y a même des très grandes villes qui ont complètement disparu.
Parce ouais, que en Europe, par exemple, il y a des villes, souvent des villes commerçantes, non, des villes qui, où le commerce passait chez eux et ensuite.
Oui, oui. Puis il y a des, oui, il y a des villes qui sont trouvées à l'écart des routes et qui ont, qui ont végété, hein, pas forcément totalement disparu, mais qui sont restées de petits bourgs, alors que c'était des villes importantes au Moyen-Âge. Oui, oui, tout à fait.
La révolution va aussi amener son lot de changements. Là aussi, on théorise énormément sur.
Oui, alors déjà, il y a cette théorie des départements. On ne doit pas être à plus d'un certain nombre d'heures du chef-lieu, ce qui veut dire en quelque sorte que la logique du département, c'est quand même que. Il faut qu'il y ait une ville importante au centre, hein, donc c'est un peu une sorte d'anticipation de la théorie des villes moyennes, si je puis dire, hein. Villes moyennes qui sont aussi le centre symbolique du pouvoir, la préfecture, le préfet, c'est pas rien. Alors le préfet, qui d'ailleurs n'est pas une invention de la Révolution, c'est une invention de Napoléon. C'est vrai que parfois on confond le jacobinisme révolutionnaire, qui est un centralisme politique, et la centralisation napoléonienne qui n'est pas du même ordre en quelque sorte, hein, voilà. Donc oui, puis à l'époque de la Révolution, il y a aussi le grand dessein d'embellir les villes, hein, dans la lignée des théories de Boulet, de Ledoux, Arcansenon, etc.
Et les embellir pour tout le monde.
Et les embellir pour tout le monde, oui, tout à fait. C'est-à-dire que de même que cette idée de Saint-Just, que le bonheur était une idée neuve en Europe, d'une certaine façon, la beauté devait être aussi une idée neuve. Et évidemment, la beauté pour tout le monde, ça c'était un peu la nouveauté, avec aussi un petit peu toujours le fantasme, on serait tenté de dire pré-totalitaire, hein, parce que évidemment c'est aussi une idée. Sous Staline, il y a aussi eu des très belles allées staliniennes dans beaucoup de villes. À Berlin, il y en a encore qu'on peut voir, hein, la Karl Marx Allée, qui s'appelle la Staline Allée, etc.
On va beaucoup détruire sous la Révolution. On va.
Oui, alors les églises, c'est catastrophe épouvantable. Alors les églises et les châteaux, enfin, c'est-à-dire on pille tout ce qu'il y a à l'intérieur, on brûle ce qu'on peut pas piller éventuellement, et puis on prend les pierres pour construire autre chose. Et donc c'est quand même un bilan architectural assez épouvantable, hein, il faut bien dire. Hein, c'est...
Voilà. Alors, avec une perte de population en plus. Hein.
Et avec une perte de population, parce que Paris voit sa population un peu diminuer. C'est un petit peu comme pendant les guerres, hein, comme 40-44. Hein, les gens restés en ville, c'est le danger. Bon, à Paris, c'est quand même une ville. C'est quand même là que se concentre l'activité principale de la terreur. Si on met de côté les colonnes infernales en Vendée, à Lyon aussi d'ailleurs. Donc c'est quand même Paris, effectivement, voit sa population diminuer. Et elle commence, la population augmente de nouveau à partir de 1800, à partir de Napoléon, puisqu'il y a le calme politique, une certaine sérénité qui revient, en fait, tout simplement. Hein, voilà.
Alors, l'une des grandes révolutions, en tout cas la plus marquante pour les Parisiens, et puis même sur le plan architectural, c'est la révolution haussmannienne. Est-ce qu'on va voir ce phénomène se passer dans toute l'Europe ou c'est vraiment spécifiquement français?
Alors, il y a des aspects quand même spécifiquement français. Il y a vraiment un plan d'ensemble. Il se trouve que ça se fait en même temps avec l'annexion des communes périphériques. Donc là, il y a vraiment des particularités spécifiques à Paris. Hein. La ville passe de 12 arrondissements à 20.
Oui, c'est-à-dire que les villes, Belleville, etc., étaient au départ des villes séparées de Paris,
absolument,
c'est ça?
Absolument. Et d'ailleurs, en plus, si vous voulez, cette annexion se fait de manière, évidemment relativement arbitraire, puisqu'elle va jusqu'aux fortifications de Thiers, et coupe en deux certaines communes. Hein, si vous voulez, il y avait une partie d'Ivry, par exemple, qui était dans l'actuel 13e. Hein, il y a voilà, des choses qu'on appelle le petit Ivry, etc. Bon, donc, c'est une... alors, ce qui est assez curieux, d'ailleurs, c'est qu'après, la ville a continué de se développer en espace, mais administrativement, Paris est resté ce qu'elle était en 1860, il y a donc 152 ans. Hein. Voilà, alors dans d'autres grandes villes d'Europe, c'est quand même assez souvent un peu plus tardif. Par exemple, le développement de Berlin est incroyablement rapide, mais il est plutôt postérieur à 1870. Hein.
Alors, il y a une conséquence, moi je n'avais pas du tout notion, qui est assez importante, qui va être pour la première fois ce que vous appelez le divorce entre l'architecte et l'urbaniste. C'est concrètement, quels vont être ces principaux changements? C'est-à-dire qu'on sépare les fonctions on...
Oui, alors c'est-à-dire que, l'urbaniste est censé ne pas se préoccuper des façades, mais quand et même des matériaux, de la forme des maisons, etc. Mais alors, quand il travaillait à une petite échelle, au fond, c'était souvent un architecte qui jouait un rôle d'urbaniste. C'est-à-dire que, un architecte, si vous lui donnez une maison à construire, il va travailler 100% en architecte. Mais si vous lui donnez 30 maisons à construire, eh bien, cet architecte, il va, quelle que soit sa formation, évidemment, il n'était pas question des mêmes diplômes que maintenant en 1630, par exemple, mais de toute façon, il va forcément, à partir d'un certain nombre de maisons, avoir une vision d'urbaniste. C'est-à-dire qu'il ne va pas seulement essayer de construire une belle maison, mais un ensemble de belles maisons qui vont faire un beau lieu. Il y a la notion de lieu. En fait, la notion de lieu, c'est ce qui permet de passer de l'espace, qui est une notion abstraite. L'espace, c'est 100 km², c'est de l'espace. Mais voilà, tout ça, il y a des collines, il y a des rivières, il y a des zones inondables, il y a un fossé humide, il y a un fossé sec, etc. Et bien tout ça, l'architecte, à partir d'un certain nombre de maisons, évidemment, il va faire forcément un travail d'urbaniste. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à une échelle restreinte, malgré tout, il va aussi se préoccuper des façades. Il va se dire, je vais faire un carré de telle forme, il va y avoir 35 mètres sur 60 mètres, il va y avoir une ligne de plantation, à côté il va y avoir des pavés, etc. Il va y avoir une promenade, le roi va pouvoir passer comme ça, il aura vu sur le bâtiment le plus élevé à sa gauche, etc. S'il y a une cérémonie, il pourra se positionner là. Enfin, il y a toute une réflexion aussi sur la symbolique des lieux. Et par contre, évidemment, si on demande à cet architecte de construire non pas 30 maisons, mais 3000 ou 30 000, là, il va faire un plan beaucoup plus sommaire, il y a un axe principal qui va couper à angle droit tel autre axe, et voilà. Alors, donc effectivement, il y a eu cette dissociation entre l'urbanisme et l'architecture. C'est tout de même, ça nous paraît assez étonnant, mais enfin, les urbanistes des années 50, c'était souvent des gens qui avaient une formation d'architecte, mais enfin, quand je dis urbaniste, je veux dire par là qu'on leur demandait d'intervenir non pas sur une façade précise, mais sur une ville nouvelle. Monsieur, vous avez 9 mois pour me produire le plan d'une cité où je voudrais 15 000 habitants d'ici un an et demi. Donc évidemment, la question, ça ne va pas être de dessiner le détail des fenêtres. Ça va être de les aspects, les transports, évitons de construire en zone inondable, etc. Bon, et donc à ce stade-là, à l'époque des grands ensembles, les urbanistes pensaient faire œuvre d'art. Mais en fait, ils ont perdu le sens de l'échelle. Ils ont complètement perdu le sens de l'échelle parce que c'est très difficile de l'avoir à un certain stade. On est dans l'abstraction. Si vous voulez, le plan voisin de Le Corbusier, l'ingénieur voisin, en l'occurrence, de 1920 au 1924, c'est quand même assez hallucinant. On rase tout le centre de Paris, c'est-à-dire l'équivalent des premiers, deuxième, troisième, quatrième arrondissements. Quand même assez sympathique, ça va du Louvre au Marais. Bon, et à la place, on met des tours en forme de croix, d'ailleurs.
Il y en avait quatre, je crois, non
disons que chaque tour avait en fait quatre côtés. Ouais. Et l'objectif était d'avoir le soleil un peu partout, quoi, en fait. Hein. Au niveau de l'objectif soleil, je pense que c'était OK. Hein. Mais simplement, la déshumanisation aurait été totale. C'est-à-dire que ça aurait été vraiment des espaces inhumains. Et le drame, malheureusement, c'est qu'on a construit les mêmes espaces inhumains en banlieue. Et c'est d'ailleurs finalement pire. Parce qu'au moins, il prévoyait de garder quelques monuments à Paris, alors qu'en banlieue, de toute façon, il y a même pas de monuments. Donc il y a même plus de lieu de symbolique historique auquel se rattacher.
Alors vous parliez de Corbusier, le XXe siècle, ça va amener des grandes révolutions. J'ai l'impression que pour la première fois, nous allons avoir deux voies un peu différentes qui vont émerger des deux côtés de l'Atlantique. Il y a un plaidoyer contre la ville aux États-Unis qui va se mettre en place. La ville est considérée un peu comme un danger, une surtout de la pauvreté, de la promiscuité. Donc c'est le règne, la maison individuelle, pour eux c'est le véritable progrès. Alors que du côté européen, on commence à s'organiser autour de la charte d'Athènes. Commençons par l'Amérique. D'où vient cette haine de la ville?
Alors, je pense que c'est tout de même un peu dans la culture américaine. Alors, c'est vrai que les Américains ont une chance.
Pourtant, ils ont construit les villes les plus grandes.
Oui, c'est assez curieux. Ils ont construit des villes hyper modernes et assez impressionnantes dans leur registre, incontestablement. En même temps, la civilisation américaine, c'est quand même fondamentalement une civilisation où on dit aux gens, vous avez l'espace devant vous. Et c'est vrai, quand on regarde une carte des États-Unis, c'est immense. Et bon, la population maintenant est d'environ 300 millions d'habitants, mais enfin, c'est finalement assez peu peuplé par rapport à l'immensité de l'espace, même s'il faut plus ou moins défalquer quand même des zones relativement désertiques. Ouais. Mais bon, quand même. Donc, si vous voulez, on n'amènera jamais les Américains à se passer, si je puis dire, du rêve, d'une grande maison, enfin, et d'un rêve même très très concret. Voilà. En ville, en Europe, il y a l'habitude depuis des siècles d'être finalement nombreux sur un espace, en fait, quand même beaucoup plus petit. Alors, sans parler d'une des plus grandes densités du monde, qui est tout simplement celle des Pays-Bas. Bon, la France a une densité beaucoup plus faible, mais néanmoins, il y a toujours eu l'idée que, la ville, on était un peu entassés les uns sur les autres. Et n'oublions pas que Paris a eu son maximum de population vers 1914, c'était 2 800 000 ou 2 900 000 habitants en 1914, alors qu'on est redescendu à 2 millions, un peu remonté à 2 100 000, enfin voilà. Donc Paris était plus peuplé sur le même territoire. Hein. Donc c'est... Et l'aspiration à... Il y a toujours eu néanmoins l'aspiration à la maison individuelle, mais aux États-Unis c'est très fort, c'est Henri David Thoreau, toute la critique qui vient fondamentalement des États-Unis, la critique au fond de la modernité, c'est très curieux parce que les États-Unis, enfin l'Amérique du Nord, c'est la patrie de la modernité d'une certaine façon, mais en même temps, c'est là que les critiques souvent les plus fortes, des critiques écologiques de la modernité, sont venues avec l'idée d'un nécessaire retour à une symbiose entre l'homme et le milieu naturel, à une vie simple, l'amour de la vie simple. De même, en Grande-Bretagne, c'est tout de même assez curieux, pays de l'industrialisme des 1800, c'est là qu'il y a eu, notamment avec Ruskin, les plus grandes critiques de l'industrialisme et de l'industrialisation de la construction des maisons ou des logements, et l'apologie de l'artisanat, l'apologie de l'art populaire, l'apologie du savoir-faire artisanal. Donc c'est souvent dans les pays qui ont le plus souffert des excès de la modernité qu'il y a eu en même temps les réactions les plus fortes et les plus intéressantes.
Alors, du côté de l'Europe, il y a effectivement cette charte d'Athènes, cette charte qui va être très critiquée. On va la considérer un peu comme la charte communiste.
Qu'elle est en 1943.
Et on l'accusera aussi peut-être d'être le mal absolu de nos banlieues. Mais n'a-t-elle pas été souvent un prétexte et pas forcément complètement suivi, une sorte de bouc émissaire? On s'est servi de la charte d'Athènes pour faire un peu n'importe quoi en disant « Regardez, c'est Le Corbusier qui l'a dit ».
Oui, tout à fait. Parce que, à vrai dire, je ne suis pas sûr que de l'ouvrier qui a joué un rôle très important au début de la Ve République, sous De Gaulle, 58, 62, 63, etc., avait forcément lu en détail le Corbusier. Simplement, il voulait loger une population française en net accroissement suite au baby-boom, et surtout faire face, parce que s'il y a eu que l'accroissement naturel, c'était pas si considérable que ça, mais surtout faire face à l'exode rural. Formidable immigration, si je puis dire, qui n'était pas à l'époque de gens venus du Sri Lanka ou autre, mais qui étaient tout simplement venus de la France profonde pour trouver du travail dans les grandes villes et surtout en région parisienne, enfin, d'une manière générale aussi dans toutes les grandes villes, grandes métropoles, Bordeaux, Lyon, etc. Et donc effectivement, objectif construire pas cher, bon, survoler la région parisienne en hélicoptère, où il y a des grands terrains, on achetait ça aux paysans, bah évidemment ça ruinait pas l'État, et puis De toute façon, comme il y avait de moins en moins de paysans, c'était pas un problème. Hein, on pouvait ceux qui restaient, ils avaient toujours de plus en plus de terres, hein, puisqu'on est passé de surface moyenne des paysans, il y avait peut-être de 10 hectares en 1940 à des centaines d'hectares actuellement. Sauf que évidemment, des paysans, il y en a 100 fois moins. Hein, bon, et donc effectivement, il achetait des terrains, il essayait de voir s'il y avait moyen d'y aller en voiture. Au fond, la logique, c'était si les gens y vont en voiture, au fond, c'est deux fois bien. Ils achèteront la voiture, bon pour l'industrie automobile, bon pour le produit intérieur brut, enfin ouais, pour la croissance, c'était le développementisme, on y est toujours. Ça nous amènera à construire des routes, bon pour les entreprises de terrassement, ça créera du boulot. Et puis, on achètera du pétrole, mais de toute façon, il est pas cher et c'est pas un problème. Et voilà. Et personne n'anticipait le fait que le pétrole, il y en aurait pas indéfiniment, ou en tout cas que le coût d'extraction sera de plus en plus élevé, parce que évidemment, les zones faciles, à un moment donné, sont épuisées, les zones faciles d'accès. Donc c'était le développementisme et puis même l'idée qu'au fond les gens avec des grands espaces dont on se rend compte qu'ils servent à rien, des espèces de grands espaces verts mais ils ont plutôt des terrains vagues, en fait on pensait que les gens seraient heureux parce qu'on n'anticipait pas du tout les possibilités que ça devienne des zones de non-droit, etc. On n'anticipait pas non plus l'immigration, alors qu'on commençait à faire venir des travailleurs immigrés pour construire ces immeubles. Vous voyez, mais on n'anticipait pas après le regroupement familial et l'immigration de masse.
Parce que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que jusque dans les, vous expliquez, jusqu'aux années 60, il y avait une sorte de fierté d'être banlieusard. On pense bien sûr au dialogue de Diard, à Simonet, qui se disaient faubourien. À l'époque, c'était ça. Ou à la figure de Jean Gabin, il y a une sorte de nostalgie de cette époque-ci, mais cette banlieue, en fait, ils l'ont sautée. Ils ont été encore plus loin. Au lieu d'essayer de construire dans les banlieues qui existaient déjà, où ils auraient pu les améliorer, ils ont été derrière.
Derrière, voilà. Alors là, Patrick Pell, vous avez... vous mettez le doigt sur l'essentiel. C'est-à-dire qu'on aurait pu se dire, il y avait à Paris, comme dans les proches banlieues du type Pantin et autres, vraiment énormément de logements insalubres. On aurait pu se dire, faut vraiment restructurer ça assez profondément. Il y a des immeubles à détruire, déjà qui n'ont pas de qualité particulière, etc. Mais on peut détruire tout en gardant la trame des rues, en modifiant un peu à la marge, mais en faisant en sorte que les gens gardent leurs repères, si vous voulez, une transformation progressive, raisonnable, telle que les gens se disent « Ah, il y a deux, trois trucs qui ont changé, mais là, je reconnais bien ceci, cela, mon père, il connaissait déjà cette église, etc. » Donc là, on a, pour ces banlieues proches, on n'a rien fait, sauf quelques cas comme Bobigny, parce que Bobigny devait devenir la préfecture du nouveau département de Seine-Saint-Denis créé en 64-68. Et donc là, Bobigny est devenu une ville nouvelle. On a détruit l'ancienne église. On a mis une nouvelle qui ressemble pas trop à une église, d'ailleurs. Bon, bref. Et beaucoup d'autres banlieues, on les a laissées. Alors aussi pour des raisons politiques. C'était administré par les communistes. Donc De Gaulle préférait finalement ne pas y toucher. En gros, faire l'impasse là-dessus, surtout ne pas affronter le PC. Donc une sorte de modus vivendi. Et par-dessus, très loin, dans les zones périurbaines, dans des zones à betteraves, hein, eh bien, grands ensembles, voilà. Et avec l'idée, d'ailleurs, effectivement, qu'au moins ces gens-là ne seront pas sous l'influence du Parti communiste, parce que c'était des villes nouvelles. Et puis qu'ils seraient contents d'avoir des immeubles neufs, plein de places, etc. Et la bagnole garée devant l'immeuble, quoi.
C'est ces fameux cités dortoirs, en fait.
Tout à fait, voilà, Sarcelles.
Pour dormir, mais on n'y vivait pas, quoi.
Voilà, on n'y travaillait pas, en tout cas, et donc on n'y était que le soir, et le week-end. Alors, évidemment, quand le chômage s'est développé, le désœuvrement des parents, les enfants voyant leurs parents au chômage et avec aussi un peu une image familiale détériorée. Qu'est-ce qu'il fait ton père? Pas grand-chose, il était viré de Citroën il y a 2 ans, il vit des aides sociales. Les enfants commencent à faire des conneries. Ouais. Voilà.
D'où vient le mot banlieue? En fait, je me suis aperçu que dans votre livre, c'est un mot qui est très ancien.
Oui, c'est tout simplement. Alors, c'est le lieu du ban, c'est-à-dire que c'est le lieu d'une juridiction, hein, c'est-à-dire en fait, c'est le lieu sur lequel s'étend une juridiction, c'est-à-dire un ban à 4,5 km, un lieu en l'occurrence, autour, autour en fait du seigneur, quoi, au Moyen Âge. Hein. Donc, c'est pas le lieu lieu, c'est pas un lieu sans droit. Hein, c'est au contraire le territoire soumis à un droit. Hein. Donc effectivement, quand les banlieues deviennent des zones de non-droit, c'est pas conforme à l'étymologie. Hein, ça serait simple, mais c'est pas comme ça que ça marche. Voilà. Mais il est bien certain que effectivement, actuellement, on voit bien que beaucoup de banlieues sont des territoires où il y a des agissements parfaitement interdits, comme la revente de drogue, qui sont au vu et au su de tout le monde. Voilà quoi. C'est tout à fait clair.
Alors, vous donnez quand même quelques exemples qui ont assez bien marché, mais on les a pas vus évoluer, c'est ces fameux cités jardins que beaucoup de gens considéraient comme alors là on tombait dans la gauche socialiste un peu paternaliste et tout, et pourtant vous en dites beaucoup de bien.
Ah oui, alors ce qui est quand même assez extraordinaire, c'est que finalement la bonne solution, on l'avait trouvée. Et on l'a oublié. On l'avait trouvé dans les années 30. Alors, on avait trouvé, c'est intéressant, la réflexion théorique, on parlait tout à l'heure, Patrick, de l'écart entre période de réflexion théorique et période de construction. Dans les années 30, on a peu construit, mais on avait compris ce qu'il fallait faire. Alors, on l'a fait un peu. Cité Jardin, allez voir, par exemple, celle de Stein, qui est pas très loin de la mairie, c'est vraiment tout à fait sympathique. Et petit jardinet, comme le nom l'indique, voilà. 4-5 étages maximum, c'est à la fois suffisamment dense pour être convivial, c'est-à-dire qu'il n'y a pas trop de gâchis d'espace, on peut avoir des arrêts de bus un peu partout. En même temps, c'est pas du tout des barres délirantes, etc. Donc c'était la bonne solution. Ben, on ne l'a pas reproduit après la guerre. Voilà, on ne l'a pas reproduit.
Il y avait même, avant-guerre, il y avait déjà un projet d'un Grand Paris, vous expliquez, qui a été abandonné.
Oui,
mais
il y avait les projets de... Oui, tout à fait, d'Henri Prost. Effectivement, on avait déjà réfléchi à l'aménagement de la région parisienne avec des projets assez intéressants. Et là-dessus, il faut bien dire que l'après-guerre a été vraiment décevant. Et la catastrophe s'est quand même accélérée à partir de 1958. Ouais. La Quatrième République a pas fait grand-chose, mais a continué un peu les projets des années 30 qui n'étaient pas les pires. Alors, en 58, on construit vraiment, à partir de 58, des grands ensembles à grande échelle, c'est le cas de le dire, et... En très lointaine banlieue, enfin dans des zones qui n'étaient pas des zones urbaines, tout simplement, sur des champs agricoles. Voilà. Et donc là, vraiment, on est dans le grand délire.
Oui, c'est ces fameuses barres où on mettait un rail, une grue, et puis on construisait
exactement
tout le long.
Exactement, le chemin de grue. Et là, ça devient vraiment catastrophique, parce que très souvent, on ne prévoit pas les transports en commun. Les zones d'activité sont lointaines, et puis à un moment donné, le chômage arrive, et là, ça devient véritablement la catastrophe, quoi. Si vous voulez, c'est totalement catastrophique. Si vous voulez, on a vraiment quelque chose qui est d'une laideur monstrueuse. On a quand même actuellement 1%, sur 1% du territoire national, on a 20% de la population française en région parisienne.
Ouais.
20% des Français sur 1% du territoire.
Ouais, c'est énorme.
Quelle absurdité. Ouais. Quelle absurdité.
Alors, il y a un moment, on va arrêter de faire ces grands ensembles dans les années 70, je crois.
Oui, tout à fait. Circulaire Olivier Guichard, qui était ministre de Pompidou, en 73. Et puis alors ensuite, quand Giscard est élu en 74, de toute façon, Giscard n'aimait pas tout ce qui était tours, bars, etc. Donc ça confirme, mais voilà, ça date de fin Pompidou, l'arrêt des grands ensembles. Il se trouve que c'est concomitant avec la première crise pétrolière.
Ouais. Et donc à ce moment-là, ces grandes barres qui sont principalement au départ habitées par des Français, l'immigration est arrêtée officiellement. Bon, pour les
oui,
auditeurs,
ça dure à peu près une année. C'est-à-dire
une année.
Giscard, assez curieusement, si je puis dire, arrête l'immigration et malheureusement, il ne reste pas sur cette ligne.
Voilà.
Mais alors, c'est vrai qu'il y a eu un
arrêt on se retrouve par contre avec le regroupement familial.
Voilà.
Et là, il va avoir pendant toute une période où en fait, les Français vont partir encore plus loin, eux. Construire dans des zones pavillonnaires, et ces grands ensembles vont on va faire les premiers ghettos d'immigrés.
Voilà, alors effectivement, Giscard, après avoir pensé arrêter l'immigration et même avec Stoléru avoir envisagé de mettre en place une aide au retour, notamment des Algériens.
Oui, on était qu'une douzaine... 10 000 francs à l'époque, je crois. Hein.
Ça devait pas être négligeable. Oui, on était à l'époque. Il faut bien voir qu'on était qu'une douzaine d'années après la fin de la guerre d'Algérie, hein, 74, c'est 12 ans après 62. Sœur Ali c'est un décret de Chirac, hein, au contraire à l'immigration familiale. Sans doute d'ailleurs, chez beaucoup de dirigeants, il n'y a pas une conscience suffisamment claire de l'ampleur que ça va prendre. On peut penser qu'il y a une sorte d'aveuglement. Il ne faut pas toujours être complotiste. On peut aussi penser, je pense, à une incapacité de se rendre compte que ça va être un appel d'air absolument terrible. Il y a aussi le fait que l'Afrique, qui n'était pas trop mal partie dans les années 60-70, commence à entrer dans une crise très grave à partir des années 80. C'est l'Asie qui était très mal partie dans les années 60-70. Et après, c'est l'Afrique qui s'enfonce, c'est l'Asie qui décolle. Or, il se trouve que, bon, quand il y a une grande misère en Asie, le réflexe premier, c'est pas forcément de venir en Europe, en tout cas en France, parce que c'est quand même assez loin. Alors qu'évidemment, quand il y a un problème en Afrique, la France et l'Europe, ouais, sont évidemment pas très loin. Donc, il y a effectivement une immigration familiale qui aboutit à une mutation de population telle que notre pays n'en avait pas connue depuis des siècles, hein. Puisqu'en fait la population française se développait de manière endogame pratiquement avec des apports étrangers qui étaient quand même statistiquement finalement extrêmement minimes. Depuis des siècles, ça a bien été montré par les travaux du regretté professeur Jacques Dupaquier, hein. Et donc, à partir de là, effectivement, un certain nombre de gens qui déjà n'ont pas la culture de l'habitat occidental, qui déjà n'est pas non plus la même chose que les grands ensembles. Il y a quand même une version, si je puis dire, à la fois moderne, mais en même temps extrêmement simplifiée au plan décoratif de l'habitat européen classique, se retrouvent parachutés dans des grandes cités, alors que leur modèle de la maison en pisé, etc., c'est pas du tout le grand ensemble. Que à la limite, ces gens-là se seraient peut-être mis à bricoler s'ils avaient eu une petite maison, style maison rurale de 1820 dans un village français, parce qu'ils auraient retrouvé peut-être certains réflexe, hein, par rapport au travail du bois. Mais alors, dans les grands ensembles, on ne peut pas bricoler. Et donc, à partir de là, la gestion des grands ensembles étant confiée à des sociétés se repassant plus ou moins en plus la patate chaude, etc. La ville de Paris avait une société HLM qui possédait énormément de logements, mais pas à Paris, mais au fin fond de la banlieue, dans lesquels elle logeait d'ailleurs ses fonctionnaires parisiens. Bref, donc tout ça aboutit à une dégradation de l'habitat et à une dégradation de l'atmosphère et à des ghettos, une série de ghettos ethniques côte à côte, voilà. Donc dans lesquels les Français évidemment ne se retrouvent pas, se retrouvent au contraire en situation de malaise, parce que c'est pas leur culture, parce que c'est une violence qui est faite finalement à la culture française d'origine. C'est-à-dire, il y a sans doute quelque chose d'assez violent pour les immigrés dans le fait de ne pas être leur pays d'origine. Enfin bon, ils sont a priori aussi pas non plus lutte de force avec le regroupement familial, au contraire, c'est un choix qu'ils ont fait de se regrouper. Pour les Français, eh bien, effectivement, le changement de composition ethnique, en quelque sorte, et culturelle, ethnoculturelle du quartier, amène à un malaise, une souffrance. Alors ils vont encore plus loin, mais alors là, ça fait très loin. C'est-à-dire qu'on sait très bien que l'aire urbaine de Paris actuellement déborde la région Île-de-France, jusqu'en Picardie, hein, jusqu'en Picardie, jusqu'à Chartres, ouais, qui ne fait pas partie de la région Île-de-France, jusqu'à...
La Normandie, des coins de la Normandie.
Pithiviers, qui est pourtant dans le Loiret, qui est région centre, une partie de la Normandie, Vernon, etc. Enfin, donc il y a vraiment effectivement ces populations périurbaines, dont un certain nombre d'ailleurs, se sont manifestés depuis quelques années par le vote populiste.
Oui, c'est ce que. On en revient à ce qu'on parlait le mois dernier, et ce qu'a très bien analysé la gauche populaire, cette zone périurbaine qui se retrouve, elle, séparée de la ville par ses ghettos, et donc effectivement, a l'impression d'être complètement isolée par rapport au centre des villes.
Oui, tout à fait. Oui, c'est incontestable, d'autant qu'ensuite, il y a beaucoup d'argent qui a été mis dans les travaux de réhabilitation des grands ensembles, mais ça n'empêche pas que ce qui reste difficile à vivre, c'est même si les ascenseurs marchent, ont été réparés, changés, etc., ce qui reste difficile à vivre, c'est l'atmosphère, c'est l'état d'esprit, on sait très bien, c'est les jeunes qui tiennent les murs, comme on dit. Bon, voilà, s'il n'y avait que le problème de l'architecture, on peut penser que par une densification progressive de ces grands ensembles pour en faire des vrais quartiers de ville, on pourrait progressivement, il faudrait sans doute en détruire quelques-uns. On pourrait progressivement, pour un certain nombre d'entre eux, en faire des quartiers vivables. Mais le gros problème, c'est effectivement la violence qui règne. On le sait très bien. Enfin, les raquettes, les difficultés pour une femme d'assumer souvent tout simplement sa condition de femme. Hein, le fait qu'il y ait un certain nombre de femmes, parfois d'origine française, qui finissent par se voiler parce que
prendre les coutumes en fait
prendre les coutumes dominantes du quartier parce que finalement ça leur permet de passer inaperçu et de ne plus être en but à des tracasseries et quand je dis tracasseries ça va parfois plus loin nettement plus loin des incivilités comme on dit mais enfin les incivilités ça peut mener à des choses beaucoup plus fortes comme l'affaire Ilan Halimi. Hein, donc il y a quand même effectivement là dans ce décor de la misère, il y a aussi une misère morale due au déracinement lié à l'immigration qui est devenue quelque chose quand même qui est sans doute la grande question de notre pays.
Mais ces zones-là, parce qu'on a toujours tendance à dire à se sont dégradées. Les services publics sont partis. Il n'y en a jamais eu. Ce sont des zones dortoirs où l'administration était quand même... Il n'y en avait pas beaucoup, il n'y avait pas de commerce, etc. Et tout. Donc, en fin de compte, quand l'immigré se retrouve dans ce genre de ville, il pourrait se trouver ici ou dans un autre pays, il ne voit aucune différence.
Oui, alors tout à fait. Alors déjà, c'est quand même difficile de demander à des gens d'aimer le caractère français, de devenir français, de s'assimiler à la France, si on leur donne de la France des choses aussi peu spécifiquement françaises que des grands ensembles de Grigny ou d'autres villes. Parce qu'effectivement, des grands ensembles comme ça, il y en a pareil dans la banlieue de Moscou, dans la banlieue du Tadjikistan, enfin de tel coin. Enfin,
On a souvent, je me souviens, on disait de ces banlieues que ça ressemblait à un style très stalinien, mais en fait, ce sont les Russes qui vont copier les grands ensembles français.
Parce que disons, la vraie architecture stalinienne a moins le mérite d'être assez costaud quand même. C'est souvent construit en pierre de taille. Enfin, la Karl Marx Allee à Berlin, c'est du costaud. C'est assez beau. Enfin, c'est pas forcément ma tasse de thé, je dois vous dire. Mais bon, c'est pas de la construction fragile. Donc, on en est effectivement à des zones, comme vous l'avez dit, Patrick Péel, sous-administrées. Alors, en termes quand même de nombre de policiers, il faut bien voir qu'il y a toujours eu par habitant infiniment moins de policiers en banlieue qu'à Paris. Alors il faut quand même pas s'étonner après de ce que ça devienne des zones de non-droit. On n'en a pas mis les moyens de manière quasiment volontaire. En tout cas, on peut quand même se poser la question.
Alors, vous êtes toujours sur Radio Courtoisie dans les chroniques de la vieille Europe et on reçoit en ce moment Pierre Le Vigan pour son livre « La banlieue contre la ville ». Alors, on a bien vu que cette banlieue s'est étalée, on a vu ces zones périurbaines se mettre en place. Il y a eu quand même quelques initiatives, vous en donnez quelques-unes. On a souvent décrié l'architecte de gauche Roland Castro, qui avait essayé d'enrayer cette spirale infernale avec son projet banlieue 89. Il y avait quelques bonnes idées quand même dans son travail.
Oui, tout à fait. Il y a un petit peu un paradoxe Roland Castro, parce que c'est quelqu'un, si des gens d'éléments comme vous et moi, Patrick, ou tout simplement des gens qui passent sur Radio Courtoisie disent du bien de Roland Castro.
Va
expliquer que, oh non, jamais, il n'a rien à voir, rien de commun avec des gens comme nous. Mais force est de constater qu'au-delà de son côté provocateur d'extrême gauche, sans doute immigrationniste si on lui posait la question, encore qu'il ne parle pas forcément de cette question, la vérité c'est que Roland Castro a tout simplement dit de bonnes choses parce qu'il a repris en bonne part les idées des années 30, des idées jardins. Et on ne peut que lui dire là-dessus, c'est une très bonne chose, hein, effectivement, de vouloir réactiver ses idées. Donc effectivement, Roland Castro, même dans beaucoup de réalisations, n'a pas fait de choses monstrueuses. Il a fait des petits immeubles, il a fait des choses assez élégantes, assez délicates, pas mastoc du tout. Il est plutôt pour des petits quartiers, des quartiers à taille humaine, retrouver un peu l'esprit de la ville médiévale, l'insalubrité en moins, voilà, bien entendu.
Il a étudié la ville médiévale pour voir comment le lien se faisait.
Si vous voulez, c'est la ville médiévale, sauf qu'on jette pas son seau d'eau de toilette par la fenêtre. Bon.
C'est plutôt mieux.
C'est plutôt un progrès, quoi. Faut bien dire, même si on n'est pas pour la religion du progrès, bon, faut quand même constater que dans certains domaines, il y a des choses, c'est pas plus mal. C'était pas toujours mieux avant, hein.
Oui.
Donc, évidemment, Roland Castro, honnêtement, sur la question de la ville, on ne peut qu'être d'accord avec lui. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ils disent que un certain nombre de gens, comme la revue Élément dit depuis maintenant des dizaines d'années, c'est-à-dire qu'ils critiquent le productivisme. Voilà. Alors bon, on ne peut que se retrouver assez souvent en phase avec lui. Et c'est vrai que ces projets de banlieue 89 consistant à traiter en priorité la proche banlieue, un déshérité, proche et moyenne banlieue, Aubervilliers, Pantin, Sarcelles, Romainville, Montreuil, en valorisant les lieux symboliques. Lui, il avait dit les forts, les anciens forts de défense de Paris, il faudrait en faire des lieux de culture, des lieux d'activité, d'animation, les valoriser, les relier entre eux par un tramway ou un super métro, etc. C'est vraiment d'excellentes idées, incontestablement c'est d'excellentes idées. Il n'y a eu que quelques projets faits. Un certain nombre ont quand même été très, très bien faits. Quand on va près de Nantes, par exemple, à Rosé, quand on voit ce qu'était l'ancienne gare de bus et quand on voit la nouvelle, qui est un projet banlieue 89, qui a maintenant une trentaine d'années, hein, effectivement, c'est très, très réussi. Il y a un travail fin. Ça permet de voir qu'on peut faire un travail intelligent. Mais il n'y a pas eu continuité du pouvoir politique pour soutenir ces projets. Parce que ce sont des projets qui finalement étaient des projets assez fins, qui demandaient parfois plus de réflexion que de grosses constructions. Or, on préfère toujours en France donner du travail aux grosses entreprises du BTP plutôt que de payer un peu plus, d'investir un peu plus dans la matière grise. C'est pareil pour tout l'argent qu'on investit en banlieue. Il est tout à fait exact qu'on a beaucoup dépensé pour la politique de la ville, mais finalement beaucoup plus dans la rénovation physique, et souvent c'était nécessaire, mais pas assez dans l'aspect humain. Et là encore, dans l'aspect humain, bah, il faut certainement des éducateurs, mais il faut aussi plus de policiers. C'est sûr qu'effectivement, si on a 10 fois moins de policiers par habitant en banlieue, alors qu'on a une population beaucoup plus difficile, il faut franchement pas s'étonner de l'insécurité. On en arrive même à se demander si cette insécurité n'est pas voulue, en quelque sorte, pour dire aux gens, voyez, l'insécurité, c'est le problème numéro un. Donc, conclusion, ne vous intéressez pas aux questions sociales, la perte de souveraineté monétaire de la France, c'est pas non plus très important. Alors qu'au fond, il y a un cycle, en quelque sorte, de la paupérisation de la France. La désindustrialisation, ça a quand même aussi un rapport avec le chômage. Et le chômage, ça a quand même un rapport aussi avec une certaine misère de la banlieue. Ce qui ne veut pas dire que le sous-emploi excuse en aucune façon, je suis totalement d'accord avec Xavier Hoffer là-dessus, en aucune façon les violences en banlieue, c'est pas ça. Mais néanmoins, évidemment, s'il y avait moins de chômage, il y a quand même un certain nombre de choses qui pourraient aller mieux, c'est incontestable.
Ces fameuses zones de non-droit, et je reviens à votre propos, est-ce qu'en fait elles n'arrangent pas le pouvoir ? Elles sont placées dans un endroit où, bon, effectivement, ce sont des familles qui ne sont plus dans la cité, qui n'ont pas de travail, etc. Vaut mieux qu'elles soient là que dans les zones périurbaines ou dans le centre-ville.
Alors, c'est certain. D'ailleurs, regardez, comparer des zones de banlieue où on ne voit les policiers parfois que le matin, pour mettre des contredanses aux gens qui ont leur véhicule. Et ensuite, quand les dealers se lèvent à 14 heures, parce que c'est les gens qui se lèvent tard et qui se couchent tard, évidemment, il n'y a plus aucun policier. C'est-à-dire que, donc, en d'autres termes, ce qui est sanctionné, c'est l'éventuel mauvais stationnement du pauvre bouc qui va prendre sa bagnole après avoir vu son amende sur son pare-brise, qui va prendre sa bagnole pour aller bosser, tandis que la vente de drogue, qui est quand même un peu plus grave, me semble-t-il, que de s'être mal garé, finalement va se faire au vu et au su de tout le monde. C'est encore un artisan maghrébin que j'ai l'occasion de voir dans un contexte professionnel qui m'expliquait ça récemment. Ce genre de choses, effectivement, a quand même aussi comme conséquence qu'une partie du trafic sert à payer les loyers. On le sait bien, hein, parce qu'effectivement, quand du trafic de drogue rapporte 500 euros par jour, et encore, là, je suis dans la fourchette basse, hein, pour quelqu'un qui pour un dealer qui travaille peu, eh bien, effectivement, on n'a pas trop de mal à sortir les 400 euros de loyer à la fin du mois. Hein, donc, voilà. Donc effectivement, quelque part, certains bailleurs n'ont pas forcément envie d'interpeller la police sur les trafics qui, au fond, amènent à ce que un certain nombre de loyers soient réglés. Hein. Voilà. Les gens qui ne payent pas, d'ailleurs, souvent sont des gens qui n'ont pas de rapport avec le trafic. Parce que ceux qui sont en trafic préfèrent ne pas se faire remarquer par des impayés de loyers. C'est un peu idiot. Franchement, quand on a 10 000 euros qui arrivent au black tous les mois, c'est vraiment pas la peine d'avoir des problèmes avec un huissier qui va venir dans la cité parce qu'on n'a pas sorti un loyer qui représente 5% de l'argent qu'on récolte. Hein. Ça serait un peu dommage, un peu idiot.
Depuis quelques années, on parle de ce qui est devenu maintenant une chimère, ce grand Paris. Vous avez dû voir un peu le projet. Est-ce que c'est voué à l'échec?
Ça paraît assez peu intéressant. Enfin, ce super métro. Il y a deux trois choses pas trop idiotes. Il passe par exemple à Clichy-Montfermeil. On peut pas contester que ça va désenclaver cette zone difficile. On est toujours dans la logique. Enfin, on est même typiquement dans la logique du turbo-capitalisme. Hein. Ça permet aux gens d'aller très vite d'une zone d'activité à l'extrême nord de Paris, à une zone d'habitat par exemple à l'extrême sud ou à une autre zone d'activité à l'extrême sud. Bon voilà. La vraie révolution à faire, ça serait pas ça, ce serait de relocaliser. Parce qu'au fond, quelqu'un qui habite au sud de l'Essonne, qu'il puisse aller très facilement en Picardie parce que son boulot est en Picardie, c'est bien. Mais enfin, ce qui serait quand même nettement mieux, ce serait qu'il trouve un boulot plus ou moins dans l'Essonne. J'ai pas dit au pied de son immeuble, hein. Ouais. On est dans les temps modernes, mais quand même, mais plus ou moins dans l'Essonne, ou en tout cas, s'il est en banlieue sud, bah, quand même aussi plus ou moins dans la banlieue sud, si vous voulez. Parce que, effectivement, à ce moment-là, il y aura pas de limite, hein. Et les transports que l'on créera ne seront jamais à l'échelle des besoins. Alors, je pense qu'en plus, ça va amener à des spéculations immobilières pas possibles, à des créations de zones d'activité qui seront peut-être vides, ou à des phénomènes un peu comme en Espagne, où on a beaucoup trop construit de logements, puis maintenant il y a des villes qui sont complètement abandonnées. Donc je pense que c'est un projet extrêmement mal pensé. Je fais allusion donc au Grand Paris de Nicolas Sarkozy. Voilà, le projet de la région Île-de-France était un petit peu plus intéressant. Je pense que là, les conseils généraux, en l'occurrence, souvent, comme ils sont un peu plus proches des gens, ils sont à l'échelle du département, donc une échelle un peu plus restreinte, ont souvent une vision un petit peu plus intelligente aussi des besoins. Voilà, là encore, gardons-nous du gigantisme. Le gigantisme qui va avec le culte de la vitesse et le turbo-capitalisme. Vraiment, revenons à des échelles et surtout relocalisons, parce que si on ne relocalise pas les activités, on ne pourra pas non plus relocaliser les pratiques sociales. Et ça, c'est aussi une urgence pour la ville, de relocaliser.
Est-ce que nos centres-villes sont devenus des centres-villes morts ? Est-ce que Paris devient de plus en plus une ville-musée qui perd ses habitants ? Est-ce qu'il serait possible en fait, qu'il y ait d'autres centres-villes qui se mettent en place autour de Paris ?
Oui, il y en a des embryons. Il y a un certain nombre de petites villes de banlieue qui ont un petit centre-ville relativement charmant, mais il n'y a jamais les activités de Paris parce que tout est quand même centralisé à Paris. Alors. Il faut quand même bien distinguer le centre de Paris et les périphéries, si vous voulez. Delanoë a quand même le projet, parce que visiblement il ne savait pas quoi faire de son deuxième mandat en tant que maire de Paris. Autant il avait eu un projet, on peut discuter, hein, au cours de son premier mandat, autant on sent un certain désœuvrement pour son deuxième mandat. Donc il a ce projet de tour, la tour de l'architecte Jacques Herzog, porte de Versailles, des tours dans le nord du côté de la porte de la Chapelle, alors qu'il y a déjà des tours qui sont totalement horribles et qui posent déjà de gros problèmes d'insécurité. Donc, si vous voulez, il y a quand même l'idée de densifier en périphérie, parce qu'au fond, il n'y a que des pauvres qui habitent en périphérie, hein, de toute façon. Il ouais. n'y a jamais un ministre qui va habiter Porte de la Chapelle, hein, ou même pas Porte d'Orléans, pourtant assez vivable. Mais voilà. Et donc, et par contre, de muséifier les arrondissements centraux, c'est-à-dire les 6 premiers arrondissements. Donc, c'est tout à fait dommageable et c'est tout à fait idiot, parce que au contraire, justement, les zones comme les portes sont fragiles, elles sont déjà banlieuisées, parce qu'elles ressemblent déjà à de la banlieue. Il y a toute une partie du 19e, ouais. à Paris, du 19e arrondissement, qui est bourré de tours. Mais c'est déjà un quartier qui physiquement ressemble à un quartier de banlieue.
Oui, on n'a pas du tout l'impression d'être à
Paris. Il ne faut surtout pas rajouter des tours, au contraire, il faudrait en détruire et essayer de reconstituer un tissu à taille humaine, d'immeubles de 4-5 étages, avec des coursives, un petit peu comme ce qui a été fait, pour prendre un exemple relativement réussi de bon urbanisme, hein, le centre de Saint-Denis. Le centre de Saint-Denis, ouais. il y a eu des choses pas trop mal. L'une des grandes erreurs, ça a été certainement de faire venir un immense supermarché, Carrefour, qui a en quelque sorte étouffé le petit commerce. Mais par contre, en termes d'immeubles d'habitation, il y a des immeubles de 4-5 étages, pas plus, construits dans les années 80, donc après la fin des grands ensembles. Et là, on se rend compte qu'on peut faire quelque chose de pas idiot, d'assez vivable, voilà.
L'une des grosses catastrophes aussi de Paris, c'est quand même le périphérique.
Alors là, c'est
est-ce qu'il y a une possibilité de le détruire, d'arriver
Moi, je pense que fondamentalement, il faut absolument détruire le périphérique. On n'arrivera à rien sans ça. Il faut le remplacer par un véritable boulevard urbain avec des feux rouges, etc. Par contre, ce qu'il faudrait, c'est un super métro qui fasse le tour de Paris. Le tramway, d'une part, ne fait pas le tour de Paris, d'autre part. C'est plutôt une bonne initiative, mais il est beaucoup trop lent. Donc il faudrait doubler le tramway par un super métro qui fasse, en gros, le tour de Paris. Mais effectivement, il faut fondamentalement détruire le périphérique et à la place recréer des boulevards urbains. C'est une catastrophe épouvantable que ce périphérique, qui a été construit de 56 à 73,
qui était déjà
dans la grande époque
qui était saturé le jour où il était
absolument grande époque du productivisme.
Est-ce qu'on retrouve exactement les mêmes problèmes dans les grandes capitales européennes?
Non. Alors une des villes les plus agréables à vivre, par exemple, c'est Berlin, parce qu'il n'y a pas de coupure entre le centre-ville et la banlieue, qu'il y a un réseau de transport en commun extraordinaire, que vous pouvez aller en transport en commun du centre de Berlin en un temps assez rapide, en une demi-heure, et vous vous retrouvez, vous sortez d'un RER et vous êtes au bord d'un lac, en pleine nature, dans des endroits qui sont beaucoup plus la nature que le bois de Boulogne ou le bois de Vincennes. Et donc, effectivement, c'est un très bon exemple, à mon avis, de ville vivable.
Et est-ce que ce n'est pas dû, en fait, alors le malheur qu'elle a été séparée et donc une urbanisation qui ne s'est quasiment pas faite pendant pas mal de temps?
Je crois que c'est... Alors, il y a eu beaucoup de choses assez horribles faites depuis la réunification à Berlin. Enfin, moi, c'est des choses qui ne m'emballent pas, du côté de la Potsdamer Platz, notamment. Mais non, je crois que c'est surtout dû au fait qu'historiquement, il n'y a jamais eu de coupure entre centre et banlieue à Berlin, y compris en termes d'organisation politique et administrative. Et ça, c'est quand même fondamental. Ça, c'est assez fondamental. Je pense qu'évidemment, le problème de la mairie de Paris actuellement, c'est qu'elle ne devrait pas exister. Il faudrait la remplacer par un conseil fédéral du Grand Paris. Et par contre, redonner infiniment plus de pouvoir
aux
maires d'arrondissement, qui devraient avoir autant de pouvoir que les maires des communes de banlieue, que le maire d'ici les Moulineaux, le maire de Saint-Denis, etc. Hein, donc voilà. Et c'est déjà ça. Parce que là, autrement, Paris se protège, se muséifie, comme vous l'avez dit, Patrick Péel, se boboïse. C'est la ville la plus riche de France par habitant. Voilà, c'est totalement malsain.
Avec un électorat qui, de toute façon, ne votera que pour quelqu'un qui conservera ce système.
Tout à fait.
Qu'il soit de droite ou de gauche, je pense qu'il n'y a pas eu grand changement.
Bien entendu. Oui, tout à fait. Si le maire de Paris était de droite, ça serait une maire bobo. Ce serait l'équivalent à droite de Bertrand Delanoë, c'est-à-dire un gestionnaire, si vous voulez, sans projet fort, hein, très très clairement. Hein, c'est... On est très loin des ambitions d'Henri Sellier, la social-démocratie d'avant-guerre, qui était une social-démocratie beaucoup plus volontariste que les plus à gauche du PS actuellement. Hein.
Est-ce qu'on continue à aller vers la ville? On nous cite depuis un petit moment de Parisiens ou de citadins qui partiraient vers la campagne. Est-ce que c'est plutôt un épiphénomène?
Bah, ça reste quand même fondamentalement marginal. C'est d'ailleurs un peu curieux parce que vraiment, l'essor des nouvelles technologies, les TIC, hein, technologies de l'information et de la communication, comme on dit, très clairement, auraient permis une véritable installation en zone rurale de beaucoup de gens avec le télétravail. Et c'est un phénomène, bon, assez sympathique, mais qui reste assez marginal, il faut bien le dire. Les villes continuent de croître, Paris continue de croître, mais alors on peut quand même se demander si c'est pas lié aussi à la politique d'immigration. Pour avoir toujours un vivier de main-d'œuvre pas cher, faire une pression à la baisse sur les salaires, voilà, parce que l'immigration, on le sait bien, c'est quand même avant tout dans les grandes villes. Mais enfin, c'est aussi dans les villes moyennes, hein, parce que maintenant, même dans des villes de 15-20 000 habitants, il y a de plus en plus de gens d'origine immigrée qui s'installent, et là aussi, ça pèse à la baisse sur les salaires. Discutons avec les artisans, ils vous le diront, même dans des villes de 20 000 habitants, ils vous le diront souvent avec mauvaise humeur, parce qu'ils n'arrivent plus à joindre les deux bouts, parce qu'il y a des entreprises qui travaillent au black, etc. De gens qui, évidemment, même en étant peu payés, sont mieux payés qu'au fin fond du Kurdistan, si je puis dire, et qui envoient de l'argent à leur famille, etc. Donc, si vous voulez, il y a une logique d'exploitation de la misère des gens pour peser sur les salaires de la population d'origine française qui se trouve en quelque sorte prise en sandwich entre les exigences des grandes entreprises qui sur leurs sous-traitants, et puis des petites entreprises qui sont prêtes à casser les prix en travaillant avec des gens non déclarés.
L'urbanisation effectivement est en train de grandir. On parlait tout à l'heure que la région parisienne en fait commençait à déborder sur la Normandie, sur toutes ces régions. Est-ce que ça va s'arrêter? C'est-à-dire qu'il y a un moment, il va bien falloir que cette sorte de mégalopole s'arrête, hein, non?
Je pense que ça s'arrêtera quand on aura réellement changé de paradigme de civilisation, c'est-à-dire non plus le turbo-capitalisme et la recherche effrénée de la croissance à tout prix, mais un développement raisonnable et maîtrisé de ce qui doit être développé, une stabilisation de ce qui n'a pas à être développé outre mesure, une relocalisation, je pense que voilà. Autrement, il est à craindre que ça va encore se développer parce qu'il y a des intérêts financiers en jeu. Hein, si vous voulez, l'axe, par exemple, Paris-Normandie, Paris-Le Havre. Déjà, Napoléon avait un petit peu évoqué cette idée que la Seine était un peu
prolongement de Paris.
Il y a un risque de qu'il y ait encore beaucoup de catastrophes qui soient mises en œuvre par nos gouvernants pour donner du travail aux grands groupes du BTP et au prétexte d'une sempiternelle relance sous laquelle on met ce qu'on veut bien mettre, mais bien rarement l'intérêt du peuple tout entier.
Merci Pierre Le Vigan, cette émission s'achève. Je rappelle votre livre, Pierre Le Vigan, La banlieue contre la ville, c'est aux éditions Barque d'Or. Alors, il y a une adresse?
Oui, alors La Barque d'Or, le mieux c'est d'envoyer un mail, hein, labarqueor@hotmail.fr, et il y a un site qui rappelle l'adresse et le mail, bien sûr, et qui est La Barque d'Or avec Pierre Le Vigan.
Voilà.
Google,
bon,
La Barque d'Or avec Pierre Le Vigan, ça se trouve très 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 facilement.
On mettra toutes les références sur le site, et je crois que votre dernier essai...
Écrire contre la modernité est aussi publié à La Barque d'Or, voilà. Donc on regarde La Barque d'Or avec Pierre Le Vigan et on me trouve.
Et si les auditeurs veulent écouter l'émission que vous avez fait avec Romain Lecap, ils la trouveront sur le site de Radio Courtoisie. Écoutez, c'est c'est la fin de cette émission d'été. On se retrouve normalement dans 4 semaines avec toute l'équipe. On retrouvera bien sûr Philippe Christel, Lucien Valdès, Grégoire Gambier et une rentrée, je pense, pas passionnante pour cette première rentrée sociale de la gauche et cette rentrée européenne. Moi, je vous dis effectivement dans 4 semaines, vous ne retrouverez pas malheureusement cette émission tout de suite sur le site de la Vieille Europe, mais vous le retrouverez facilement sur le site de Radio Courtoisie, parce que maintenant vous allez avoir toutes les émissions sans aucun problème. Et puis d'ici septembre, je vous souhaite une bonne rentrée à tous.
Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. Ain't
always look on the bright side of life.
Come on.
Always look on the bright side of life.
For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow.
So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath.
Life's a piece of shit. When you look at it, life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show, keep 'em laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And
always look on the bright side of life. Always look on the right side of life.
It's available in the foyer. Some of us got to live as well, you know. All right, it's a lot. Let's get this place up there. Change his mantle within 3 weeks. What do you think pays for this rubbish? Never make the money back, you know. I told him. I said to him, Bernie, I said, they'll never make that money back.